Bonjour. Je suis toujours émerveillé comment le Seigneur prépare les choses. Parce que pendant la louange, Sandia nous a parlé qu'elle choisissait. Hein, et puis vous verrez qu'il est beaucoup question de choix dans ce que je vais vous amener, en tout cas de ma part. Dora, je la laisserai dire. Et puis Nicolas a commencé par nous dire il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire. Personnellement, je choisirais plutôt le temps pour se taire, mais ce ne serait pas sympa pour Dora. Donc, je vais aussi vous dire deux, trois petites choses.
Bonjour. Ça fait tellement, tellement plaisir d'être là. C'est vraiment un privilège. Alors, ma prière, c'est que... Waouh! C'est que Dieu se fasse tellement proche de vous et que vous vous fassiez tellement proche de lui. Mon début de témoignage, c'est mon enfance. Je l'intitulerai « Dieu parle » et « Dieu se tait parfois ». J'ai grandi dans un endroit magnifique, un lieu... campagnard à fond, avec les foins coupés, avec l'odeur des labours en automne, avec les immenses hivers, pire qu'à Chaux-de-Fonds. Un lieu où j'entendais le langage de Dieu déjà. C'était le langage de Dieu pour moi, c'était l'amour de Dieu, c'était cette nature merveilleuse. Et j'en ai gardé l'amour pour le monde paysan. Ça me touche toujours de rencontrer un paysan, un vrai paysan, et puis de discuter avec lui. Et puis, faute d'avoir beaucoup de discussions avec mes frères et sœurs qui étaient beaucoup plus âgés que moi, et avec mes parents qui avaient beaucoup, beaucoup à faire à la ferme, et ben moi, j'allais discuter avec les poules, avec les lapins, avec le cheval, avec les vaches. J'avais un espace de liberté, mais tellement énorme quand j'étais petite. Et c'était ma joie. C'était ma joie, j'en profitais à fond. Et un jour, si Estelle, tu n'avais pas fait le témoignage comme tu l'as fait, je n'aurais pas eu le courage de dire ce que je vais dire maintenant. Merci Estelle, comme quoi vous êtes tous quelqu'un qui ouvre le chemin pour quelqu'un d'autre. Hein. Estelle a ouvert le chemin pour moi. Et... malheureusement, dans la ferme où on habitait, il y avait des employés et quelques-uns avaient eu des vies très cabossées. Et à un moment donné, je me suis retrouvée victime des gestes abuseurs de l'un d'entre eux. Et pourquoi ma maman, mon papa n'y ont rien vu, n'ont rien même perçu, ressenti, j'en sais rien du tout, je le saurais certainement jamais, et je leur ai rien dit. Je leur ai rien dit, j'ai gardé tout ça pour moi, et depuis là, je me suis fabriqué un blindage presque parfait. Une fausse insouciance, j'étais toujours un peu le clown de la famille, une fausse assurance aussi, et ça m'a permis de vivre simplement, de continuer de vivre jusqu'à l'âge adulte.
Alors voilà, une petite photo où je suis en jaune. J'ai eu une enfance heureuse dans un lieu magique qui s'appelle la Tcho. Avec beaucoup moins de vaches, mais plein de gens. Et puis... et puis des parties mais géantes de cache-cache dans le quartier où j'étais, la vieille ville de Chaux-de-Fonds là. Des fois on était 30, 40 gamins. Donc le pauvre chien qui devait chercher les autres, il en avait pour 2 heures. Mais c'était géant. Des parties de luge depuis la rue des Fleurs, on descendait jusqu'à la place du Bois. On postait des copains sur les routes pour arrêter les voitures quand on passait. C'était l'aventure, c'était génial. Et puis beaucoup, beaucoup de peine. Il y a une personne qui s'en souvient ici. C'est beaucoup de peine à obéir quand maman disait « C'est l'heure de rentrer !» Moi, dans ma tête, j'entendais « C'est l'heure de rester !» Donc, ça faisait un petit peu des tensions pour rentrer. En fait, dans ce petit quartier là où on habitait, j'étais juste assez grand pour monter les quatre marches qui menaient à un tout petit local, une toute petite église évangélique du quartier. Et puis, il y a des flashs comme ça quand vous êtes gamin. Dans cette église, il y avait un harmonium. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un harmonium. Une espèce de piano avant, et puis avec un son vraiment spécifique. Et ça reste. Et puis, il y avait des leçons d'école du dimanche avec le flanellographe. Ça, pour les jeunes, ça... Il n'y avait pas de e-flanellographe, ça n'existait pas. C'était un truc vert où on collait des images. Mais ces images, elles sont restées gravées. Le Seigneur, il était en train de construire peu à peu une bonne base. Et puis, c'est vrai que mon enfance, moi je l'avais un peu, j'avais donné un titre, « Le Seigneur veille sur moi ». Et c'est vrai. Et puis c'est vrai aussi, il veillait sur moi dans mes bêtises aussi. Parce qu'on habitait dans la maison où il y avait dons et frères, combustible et charbon et bois de ce temps-là. Et puis, il y avait une immense halle derrière, fabuleuse, qui faisait des mètres de haut avec des sacs de bois, mais immenses, des sacs de charbon encore plus gros. Et avec les copains, on avait réussi à s'enfiler par-dessus le truc en fer qui masquait tout ça. Mais le problème, c'est qu'on voyait dedans. Donc... ça donnait des envies. Et puis avec les potes, on avait trouvé un coup pour s'enfiler dedans un dimanche et aller jouer là-dedans. Et puis c'était l'aventure jusqu'au moment où les sacs qui étaient empilés les uns sur les autres, mais vraiment haut. Il y en a un qui a déguillé et puis il s'est écrasé en bas de charbon avec des petites boulettes de charbon. Et puis c'est vrai que ça, avec le recul, je me dis, mais si... si un de mes potes ou moi, j'étais en bas, j'étais mort. Ça devait peser, je sais pas, 200-300 kilos. Et là, le Seigneur veillait sur moi, depuis petit. Des fois, on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais avec le recul. Donc voilà pour mon enfance. On voit que, ouais, elle était heureuse quand même.
Adolescence, début d'âge adulte. La lumière dans les ténèbres. Je garde pas un bon souvenir de mon adolescence. Il y avait un espèce de brouillard opaque autour de moi. J'étais mal dans ma peau. Il y avait plein de colère en moi. Une vie désordonnée, des dépendances. Je résume tout ça. Toujours cette grosse douleur qui me faisait sentir tellement différente des autres, de mon âge. Mais là au milieu, des lumières, des lumières, des lumières. Par exemple... un petit journal qui arrivait chez nous, c'était un journal missionnaire et je ne sais pas par quel miracle ce journal atterrissait chez nous. Je n'avais pas forcément des parents chrétiens et j'ai toujours pensé que c'était un miracle. Puis quand je lisais, j'étais boulimique de lecture, quand je lisais ce petit journal, il venait se déposer en moi quelque chose de saint. Quelque chose de pur, quelque chose de tellement bienfaisant, quelque chose, c'était un amour déjà qui commençait de se poser en moi que je ne connaissais pas, mais qui s'appelait Jésus. Et un autre exemple d'une lumière, c'était certains profs au gymnase qui étaient des passionnés, puis qui ouvraient les débats sur des sujets très profonds. C'était en philo... en particulier des fois en biologie, d'où vient le monde, etc. Et puis ça ouvrait quelque chose dans mon cœur qui était déjà de l'ordre du divin. Il y avait ma chère sœur qui s'était convertie pendant que j'avais filé à l'étranger pendant plusieurs mois. Puis quand je suis revenue, elle m'a dit « Dora, tu sais pas le nombre de fois que j'ai prié pour toi ». Et là, ça m'a impactée, je me suis dit « Ouh là là ». Parce que j'avais eu affaire vraiment pendant ce voyage à des moments dangereux. J'étais en danger, je m'étais mise en danger. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait un Dieu qui me prenait au sérieux, qui se préoccupait de ma vie. Et ça, ça a été vraiment un déclencheur aussi. Et j'avais comme ça plein de gens autour de moi, on aurait dit qu'ils se serraient les coudes sans se connaître forcément, pour me faire connaître Jésus. Entre autres, une vendeuse en boucherie chez laquelle j'allais chercher mon sandwich pendant les pauses de midi. Et elle avait un culot pas possible. Elle m'avait dit, toi, je ne sais plus si elle me vouvoyait, toi dans les yeux, tu as une lumière, tu es une enfant de Dieu. Puis moi, je tombais des nues, je ne savais pas d'où ça venait cette histoire. Puis j'ai accepté d'aller boire un verre avec elle et puis elle m'avait aussi expliqué ce que c'est que d'appartenir à Jésus. Enfin voilà, plein de choses qui, au final, moi je sentais que je devais capituler devant un Dieu que je ne connaissais pas encore, mais je sentais un amour tellement fort que j'ai capitulé. Et je l'ai accepté, c'était derrière Chasserelle. On faisait une nuit à la Belle Étoile avec des amis et puis c'est là que j'ai accepté Jésus.
Alors, la vie d'ado. J'ai marqué « Le Seigneur veille encore et toujours ». Adolescent, je me rendais de plus en plus compte que j'avais un papa qui buvait plus que de raison. Et j'ai passé des soirées à attendre, un peu la boule au ventre, jusqu'au moment où j'entendais le bruit du moteur de la VV Coccinelle. En tout cas, je savais que c'était lui. C'est assez typique. Et puis là, ça faisait ouf. Ouf, il est rentré, sain et sauf. Et là, le Seigneur veillait. Pas que sur moi, mais sur ma famille. J'ai jamais eu d'amertume. J'ai jamais haï mon papa. Il restait mon papa. Et je pense que ce que je vous ai dit avant, les petites histoires au flanello et puis toute la suite, le Seigneur, il avait planté quelque chose dans mon cœur et c'était ça qui produisait cette attitude. Mes parents ont toujours fait le maximum pour pourvoir à nos besoins et puis je leur en suis vraiment reconnaissant. La vie d'ado, ben c'est aussi avec ses mauvais côtés. La vie d'ado d'un gars qui découvre des brochures avec des filles dévêtues. Le paquet de clopes chippé au fâtre. Fumé d'une traite avec un pote. 10 chacun, allez, bam. Lui malade mais comme un chien. Moi rien. Que dalle. Mais c'est la seule fois que j'ai fumé. Et là, ben, là aussi, merci Seigneur, il veillait. J'aimais aussi beaucoup faire des modèles réduits. D'avion, c'était top, quoi. Mais le problème, c'est que je n'avais pas trop d'argent. Donc, j'avais deux techniques. Soit je piochais dans le porte-monnaie de maman. On s'arrangera à la fin pour le remboursement. Parce qu'elle avait toujours beaucoup de monnaie dedans, donc elle n'y voyait rien. Ou alors, je les volais dans le magasin. Mais je les volais, papa, c'était des avions, hein, je les piquais. Et puis avec tout ça, ben, j'étais de plus en plus mal à l'aise avec ce que je vivais. Le Seigneur, il travaillait fort et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de passer par les eaux du baptême. Par obéissance au Seigneur. Mais le baptême, ce n'est pas une assurance tout risque. Il ne faut pas idéaliser ce moment-là. Des fois, ça ne va pas comme on pense. Et puis les années qui ont suivi ont été des années où le Seigneur veillait toujours autant. Pendant que je prenais de plus en plus de distance par rapport à lui. Je me souviens qu'un jour, une balade au bord du Doubs avec des amis, ils m'ont posé la question puis toi, qu'est-ce que tu veux faire après l'école ? Ouais, moi, j'aimerais bien faire menuisier ou charpentier, quelque chose comme ça, quoi. Et là, il me regarde, puis il me dit mais t'as demandé au Seigneur ? quoi cette traque. Je pense que je l'ai regardé comme un extraterrestre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là? C'est mon métier, c'est moi qui vais choisir. Et puis c'est vrai que malgré tout ce que j'avais entendu, ben, il y avait encore plein de compréhensions qui n'étaient pas encore vraiment au fond de mon cœur. Il y avait plein de compréhensions que je n'avais pas encore, simplement. Et bien des années, ben, c'était la période où j'avais un pied dans l'église, puis un pied dans le monde. Hein, un pied dans l'église. Puis je vous donnerai un petit exemple, c'est que si vous êtes vers un trottoir, puis vous marchez avec un pied sur le trottoir, un pied dans la route, un pied sur le trottoir, un pied dans la route, tôt ou tard, vous allez tomber. Et si la route, c'est le monde, ben vous allez tomber de ce côté-là parce que ça descend. Et je vais vous lire un petit quelque chose. Et vous verrez que ce que Sandia vous a dit, c'est pile poil là-dedans. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. J'étais devant des choix. Des fois, quand il y a des choses qui vont de coin dans notre vie, comme ça, on est des fois trop rapide à se dire « Ah, ça c'est le malin qui me tente, vraiment je dois résister, c'est le malin, c'est le mauvais. » Bien, bien souvent, ce qui nous arrive, c'est aussi le résultat de nos choix avant. Et puis, quelquefois, moi aussi, dans ma vie, je me dis « Mais purée, pourquoi ça m'arrive ça? Oh là là, Satan et tout ça. » Puis non, c'est presque trop facile. Des fois, je pense à avant et je me dis « Waouh, ah ouais, bah c'est le résultat logique. » Dans ma première place de travail, j'ai eu l'occasion d'aller une fois à Milan dans une grande foire de machines-outils avec une grande boîte du coin. On avait mis à disposition une machine. Je travaillais dans une petite entreprise, puis on avait mis à disposition une machine pour une grande boîte qui faisait la démonstration de ces outils. Et puis Milan, voilà, grande ville. Ambiance de foire, avec tous ces excès, excès de table, excès de l'après-table, excès du soir et de l'après-soir, avec des striptease, des machins comme ça. Et puis là, c'était vraiment, je touchais le fond. Pour certaines personnes, elles diront, ouais, mais ben, t'as rien vécu, quoi, c'était pas le fond. Mais c'était mon fond à moi. Et là, je savais que je touchais ce fond-là. On a chacun un fond à une profondeur voulue. Hein, mais là, c'était mon fond. Et puis, sur le chemin du retour, parce que j'étais tout près de Bergame, puis il y a ma tante qui habite à Bergame, en haut, dans une petite vallée. Et puis, sur le chemin du retour, eh ben, c'est la petite photo de droite qui ressemble à une voiture. C'était la mienne. Donc, voilà, c'est il pleuvinait, route glissante, je suis arrivé dans un contour beaucoup trop vite, je suis parti en dérapage et bam, dans une Jeep en face. Et puis, là de nouveau, le Seigneur y veillait. Les personnes d'en face, c'était une grosse voiture. Donc c'est tout moi qui ai ramassé, eux ils n'ont rien eu. Sauf un pot de peinture, non, d'un pot de colle de poisson parce qu'ils allaient mettre des affiches. Et puis, bop, il était sur le siège arrière. Voilà, c'est le seul mal, entre guillemets, qu'ils ont eu. Le Seigneur y veillait sur moi parce que cette année-là, ben, je crois que j'étais le troisième à avoir un accident dans ce contour-là. Et les deux premiers étaient morts parce qu'il n'y avait pas de Jeep en face et puis qu'il y avait un ravin de 100 mètres derrière qui arrivait dans une rivière. Donc voilà, le Seigneur y veillait vraiment sur moi. Je vous passe tous les détails plus ou moins rocambolesque parce que c'était l'Italie, de la dame qui m'a relevé sur l'auto qui a dit au flic « il n'est pas mort !» parce que le flic faisait la circulation. Et puis, je vous passe les détails, ouais. Même le flic qui faisait 1m20, 120 kg qui est venu dans la chambre dans l'hôpital, qui m'a regardé comme ça. C'est toi qui as eu l'accident hier là-bas. Puis, j'en savais rien parce que je me souvenais rien. Je dis, ouais, ça se peut. Et puis il me dit, on t'a ramené ton porte-monnaie. Mais on t'a pris une amende. Hein. On t'a mis le reçu dedans. C'était 20 000 lires. C'était le temps des lires, ça faisait 20 balles. Je me suis dit, merci Seigneur, je ne suis pas en Suisse. Donc, après, ben, y avait une heure de choix. Donc, j'étais dans mon lit et puis il y avait vraiment un temps de choix qui était devant moi. Hein, comme ce que je vous ai lu, le Seigneur, il vous met des temps où il faut choisir. C'est le temps de choix. Et puis là, le choix, ben, il était vite fait. Hein. Soit je choisissais le trottoir, soit je choisissais la route. Et là, ça a été vraiment un temps où, waouh, c'était profond. En revenant en Suisse, je me suis fait opérer. Et après, avec mes béquilles, je suis monté des escaliers au Locle pour aller vers Dora et lui dire, voilà, je suis tout cassé, mais si tu veux de moi, je te demande ta main.
C'est un petit chapitre d'avance. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que derrière, il y avait tout plein de gens qui priaient pour lui. Mais là, je reviens en arrière pour moi. À partir de ma conversion, il y a tout qui est allé très, très vite. J'avais vraiment les bonnes personnes autour de moi qui me disaient « Lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible !» Et puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, franchement, quand j'ai commencé de lire les évangiles, c'était comme si Jésus sortait des pages qui me parlaient personnellement. Et à l'époque, j'avais un travail qui était vraiment difficile dans une classe qui était costaud au niveau de la discipline, entre autres. Et puis, Jésus confirmait la parole que j'avais lue le jour d'avant. Quand il me disait « Je vous donne ma paix, je te donne ma paix », cette paix, je la recevais le lendemain, mais d'une manière incroyable. Donc, ça m'a convaincue que cette Bible, il fallait que je m'accroche puis que je la lise. Après, eh ben voilà, Dieu, parallèlement, faisait remonter en moi des choses qui ne pouvaient pas lui plaire, des choses qui me chargeaient, qui me salissaient. C'était des péchés que je faisais, c'était pas par rapport à avant. Et puis là, il y a une période confession, pleurs qui n'a pas arrêté. C'était quasi que ça. Et j'avais une équipe aimante autour de moi qui pouvait recevoir tout ça. Je recevais une purification, je ne connaissais pas encore trop l'œuvre de la croix, mais je recevais une purification qui était énorme. Qui était énorme. Et voilà, j'évangélisais à tour de bras, on priait pour Jean-Pierre, on était un peu dans tous les coins là, avec notre petite équipe. Et puis le baptême a suivi aussi. J'avais le sentiment qui ressort de cette époque-là, c'était le sentiment d'être honorable. Enfin honorable. Le sentiment d'être méprisable est parti, il a fait place à un sentiment d'être honorable. C'était quelque chose, mais d'énorme. Énorme. Et puis, ben voilà, Jean-Pierre, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il a été un peu trop vite dans ce qu'il a dit. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'étais bien avec lui, il était rassurant, mais il ne m'a pas vu, je faisais partie des meubles. Il ne m'a pas vu pendant 2 ans, il ne m'a pas vu. Puis moi, je me suis dit, ben, Dora, tu ne peux pas attendre pendant des années, maintenant, il faut aussi que tu fasses un choix. J'ai fait le choix de lâcher cette attente, de lâcher Jean-Pierre. Et puis là aussi, juste avant qu'il vienne avec ses cannes chez moi, j'avais reçu la liberté de lâcher cette attente. J'avais vraiment reçu la paix, puis je me disais, ben voilà, si je suis célibataire, ben je serai célibataire avec la paix de Dieu, j'espère. J'essayerai, et puis voilà, Puis c'est à ce moment-là que t'es arrivé. Notre vie de couple, je l'intitulerai « Ma guérison », peut-être aussi un peu la tienne. Notre vie à deux, à quatre, à six, c'est allé super vite. C'était sport. Ça a commencé, il y a des moments inoubliables, mais il y a des moments où tous nos clignotants de vie de couple, ils étaient au rouge. Et puis, je crois que c'est le temps que Dieu, il a choisi pour que la souffrance que j'avais gardée sous le blindage, soigneusement cachée, elle puisse enfin être nommée. Mon premier confident et soutien inconditionnel a été mon mari. Merci pour ta patience, pour ta douceur. Waouh! Pour ton écoute inconditionnelle. Ça a été le temps de Dieu pour parler à mes parents, notamment. Ça a été le temps de Dieu pour pardonner, pour apprendre à pardonner totalement, entièrement. Et en retour, je recevais des cadeaux de paix, de grâce qui compensaient, mais tellement plus ce pardon que j'avais dû arracher des tripes. Mais j'aimerais juste vous partager un jour où j'étais en lutte. Je comprenais quand même pas pourquoi Dieu permet ces choses-là. Puis je lui avais dit, j'étais sur mon canapé, puis j'avais dit à Dieu, de toute façon, t'as quand même pas vécu un abus sexuel. Je sais que t'as tout vécu, mais un abus sexuel, t'as pas vécu ça. Tu peux pas me comprendre jusqu'au bout. Là, j'allais vraiment aussi jusqu'au fond. Je voulais le saisir quelque part, ce Seigneur qui nous dit des choses, mais qui finalement, est-ce que ça a un impact sur ma vie? Je le savais, mais je le recevais pas. Et puis, il me montre c'était comme une scène réelle qui se passait devant moi. Il me dit, si, j'ai porté. Puis je lui dis, mais comment t'as pu porter ça? Et il m'a montré les crachats, il m'a montré les souillures qu'il a reçues dans son corps, jusqu'à la croix, jusqu'à ce que ça déchire son corps entier. Et ça a été la clé, vraiment la clé de la guérison. J'ai vu son sang qui était tellement comme des perles, c'était des perles saintes, magnifiques, qui venaient jusqu'au fond de moi-même me purifier. Et ça, c'était pas avec un thérapeute, c'était pas avec mon mari, c'était un cœur à cœur. Puis ce matin, ce cœur à cœur, c'est venu je sais pas combien de fois, ce cœur à cœur avec Dieu. C'était un cœur à cœur toute seule avec lui. Il me rejoignait vraiment dans ma souffrance. Donc ma guérison, elle a passé par là. Elle a passé par mes enfants qui se gênaient pas, qui me faisaient aucun cadeau quand ce que je leur prêchais correspondait pas à ce que j'étais. Puis ça a été souvent le cas. J'ai dû leur demander beaucoup pardon. Elle a passé par mon église, ma guérison. Merci mon église. Merci mon église. Elle a passé par mon service à l'église. Chaque fois que je me plaignais, Dieu me disait, mais vas-y. Et c'est dans le service qu'il y a des guérisons qui arrivent. Elles sont inattendues, elles sont merveilleuses. Et ma guérison, elle a passé par quelque chose que j'ai toujours un peu d'hésitation à raconter, mais je le fais. Cette abondance de vie qui est venue en moi, à un moment donné, elle s'est traduite par un langage inconnu, qu'on appelle le parler en langue, que j'ai reçu quand il y avait Anita Pierce. Et puis, c'est quelque chose qui a libéré encore plein de choses en moi, et qui surtout, c'est quelque chose qui monte dans des moments où je suis complètement démunie, où je ne sais plus quoi dire, quoi faire, comment réagir, qui monte quand je sens que l'ennemi est là, qui cherche à parasiter. Et ça, je peux dire vraiment que c'est... Waouh! C'est une force. Mais je cherche toujours, parce qu'on a fait partie d'une église qui était très biblique. On nous a toujours dit, il faut traduire, hein, le parler en langue. Anna, on a été drillés. Et puis, c'est quelque chose que j'ai gardé, un fondement biblique. Et puis, j'apprends maintenant à demander au Seigneur, quand il y a des parlés en langue, c'est quoi la traduction? Et puis, je pensais toujours que le Seigneur allait donner aux autres la traduction. Mais moi, je ne voulais pas me mettre là-dedans. Et puis, petit à petit, j'apprends à dire, Seigneur, si je veux être un canal, si je peux être un canal, ben, je veux l'être, je me mets à ta dispo. Et il y a des mots maintenant qui reviennent souvent. Par exemple, par exemple, il y en a un qui revient souvent pour moi, c'est Menachem. Puis je me suis dit, mais pourquoi donc je reçois un prénom d'un président d'Israël? C'est quoi cette histoire? Puis je suis allée chercher ce que ça voulait dire. Ça veut dire consolateur, sauf erreur. Et ça, ça vient, mais sans que je le veuille. Je veux dire, il y a d'autres mots, il y a aura. C'est Marianne, quand tu parles en langue, tu dis aura, souvent. Puis je me suis dit, maintenant, je veux savoir ce qu'elle dit, Marianne. Et puis, aura, ben, on a rencontré une dame ici à Chaux-de-Fonds qui nous livre d'ailleurs, enfin, qui nous donne du matériel pour les Noëls. C'est une femme israélienne. Elle me dit, ah, vous vous appelez Dora? Je dis, oui, je m'appelle Dora. Puis elle me dit, ah, mais moi, je m'appelle aura. Vous savez ce que ça veut dire? Et puis je dis, non, ça veut dire lumière. Enfin, c'est juste ce que je vous dis là, ceux qui sont dans l'hébreu. Mais moi, ça me... Franchement, c'était une confirmation pour moi qu'on est dans le juste, parce que des fois, j'ai peur. Ça me perturbe encore, cette histoire-là. Je dois avouer mes peurs. Voilà.
Pour le couple, les familles, ils veillent et pourvoient. Dora vous a parlé que on avait des moments un peu tendus. Et puis, si vous vous disiez jusqu'à aujourd'hui, « Oh, mais les ch'tukis !» Eh bien, vous aviez tout faux. Non, pas tout faux. Il y avait du juste, puis il y avait du faux. Du faux parce que, comme tous les couples, eh ben, il y a des moments où ça coince. Il y a des moments où c'est tendu, il y a des moments où on désespère, où on se dit waouh, j'ai fait le bon choix. Et une des choses, c'est vrai, qui était source de discorde, de tension, c'était la façon d'être puis la façon de caractère qu'on avait avec Dora. Dora, ben, c'est quelqu'un d'organisé, de prévoyante, un peu carré, mais dans le bon sens. Et puis moi, bah, c'est plutôt plus cool à prendre son temps et puis aller c'est un peu couler avant de prendre une décision. Et puis ça, bah, dans un couple ou dans une famille, c'est source de tension. Et ça m'a pris mais des années pour comprendre que ces deux côtés, c'est un point fort pour notre couple ou pour notre famille. Ça m'a pris mais des années à comprendre certaines choses, à comprendre le pardon, mais ça prend un temps fou. Mais ces points-là, si je les partageais, au lieu de mettre en opposition, eh ben c'était du gagnant-gagnant. Et puis en écrivant ce que je voulais vous dire, moi, je voulais vraiment encourager tous les couples qui vont se marier, mais pas rien que ceux-là, qui sont mariés, peut-être depuis des années, faites un cours pour couple. J'aurais gagné, mais des années, si j'en avais fait un au début de mon mariage. Et je vous promets que ça se compte en années. Parce que quand vous marinez dans un problème, vous pouvez le traîner, mais surtout en étant coulis et puis en prenant son temps, c'est très long. C'est très, très long. Et en y repensant, je me dis, waouh, mais quel temps perdu! Un cours pour couple, ça dure, je ne sais pas, 10 fois, 12 fois, et ça se compte en années. Donc, vraiment, je vous encourage. Mais, comme tout, hein, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas hop, et tout va bien. Eh bien non. Après, vous avez des choix. De nouveau, le Seigneur, il ne vous mâche pas tout le travail. Le Seigneur, il vous donne une feuille de route. Une feuille merveilleuse de route pour les choix dans mon couple, dans ma famille. Et après, je dois choisir. Mais cette feuille de route, si elle est là, c'est un gain incroyable.
Ben, juste dire que, ouais, y a ce que tu as dit, Jean-Pierre, mais la puissance du pardon. Alors ça, là, je pense que la puissance du pardon, elle est devant vous aujourd'hui, entre nous deux. C'était le seul chemin de sortie à certains moments, c'était la puissance du pardon. Où on ne retient rien, où ça vient balayer toute l'amertume. Ouais.
On leur fait court, là. Wow. Le dernier petit bout, j'aimerais vous le partager, c'est comme... Là, j'ai enlevé il veille, j'ai plus que garder le Seigneur pourvoi. Bon, il veillait aussi, mais il a pourvu, là. Ma première place de travail, j'arrive à la fin de mon apprentissage, mon papa vient à la maison et dit « Ah ben, j'ai du boulot pour toi !» Ok. Ouais, j'ai parlé avec un ami, là, qui a une entreprise, c'est bon, il t'engage. Bon, je suis allé bosser, 5 ans, bam. Un jour, on avait des amis à la maison, et puis cet ami me dit « Ah, dis donc, où je bosse, là, on cherche quelqu'un. » Il y a un gars qui est tombé malade, il a dû arrêter, on cherche quelqu'un. Je lui dis « Ouais, bah pourquoi pas, tiens, voir autre chose. » Alors hop, je suis allé me présenter. Et puis là, j'arrive, le patron était en face de moi, avec une feuille, tout ça, papa, il marque ce que je faisais, tout ça. Puis après, tout d'un coup, il me dit « C'est quoi le salaire que vous voulez ?» Aucune idée, quoi, c'était la... J'avais jamais fait de postulation, des trucs comme ça. Zéro expérience. Alors, je pense qu'il a vu que je restais un petit peu... bon, je ne sais pas. Il me dit, bon, c'est quoi votre salaire actuel ? Alors, j'ai dit mon salaire actuel. Il a un petit temps d'arrêt, comme ça. Il lève les yeux, puis il dit, c'est pas un salaire, ça. Je vous donne 700 francs de plus. Bon, OK. Là, j'ai bossé 19 ans dans cette entreprise. On a eu la grâce de pouvoir vivre en famille avec un salaire. Et ça, c'était une grâce. Souvent, bon, on était à zéro à la fin du mois, hein, faut pas rêver. Mais c'était une grâce. Et ça, le Seigneur, il pourvoyait. La présence de Dora à la maison, ça n'avait pas de prix. C'est un cadeau pour nos quatre fistons. Et ben, j'en suis énormément reconnaissant, ma femme. Après 19 ans, ça devenait un peu toxique là, dans l'entreprise où j'étais. Parce que je suis... si de l'extérieur, vous dites « Ah ouais, Jean-Pierre, c'est un gars cool !» Mais ça, c'est la journée. Parce que la nuit, ben, je grince des dents. Et j'étais en train gentiment d'avoir des dents plates. Donc là, je sentais que c'était le moment de changer. Il fallait un changement parce que on peut aller jusqu'à la racine, après c'est trop tard. Et puis un jour, j'étais à la Migros et il y a une voisine où on habitait, là, une voisine italienne qui dit « Ma Jean-Pierre, comment ça va ?» « Ouais, ça va. Et puis il trouvait le travail, comment ça va ?» Ouais, ça devient un petit peu ouf, ouf, là où je suis, mais gentiment, je pense à changer. Elle me dit « Ah, ben, donne-moi ton CV, je connais du monde. » Bon, OK. Je donne mon CV. La semaine d'après, j'ai un téléphone. Oui, monsieur Chucky, si vous pouvez venir vous présenter. Donc, paf, je vais me présenter. Et à la fin du blabla avec les feuilles, de nouveau tout ça. Bon, j'avais un peu d'expérience cette fois. Et puis à la fin, le patron de l'usine se tourne vers mon futur chef. Il dit « Celui-là, faut pas le laisser partir. » Bon, OK. Donc, j'ai donné ma dédite où j'étais. Et puis là, bah, ça fait 10 ans que je suis dans une entreprise d'horlogerie. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que depuis le jour où j'ai fini l'école, j'ai jamais cherché de travail. Et là, le Seigneur pourvoit, c'est du réel dans ma vie. Je ne dis surtout pas, c'est une règle. Il y a des gens qui galèrent pour trouver une place de travail. Je peux un tout petit peu les comprendre. J'ai pas eu cette expérience-là. Mais les gens qui galèrent, bah, ça me fait mal au cœur. Je me dis, waouh, ça doit être dur. Moi, j'ai jamais vécu ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait vous transmettre. Un petit peu une image, un petit flash. J'espère que ça vous aille parlé, encouragé. Et puis on va continuer de marcher ensemble.